Oui, j'ai le fou rire avant d'entreprendre la prochaine conversation parce que avec Philippe Lagu, on est rarement dans le gris. Et bonsoir, mon cher Philippe, comment ça va?
Salut, Mario.
Fait que j'ai déjà une idée avant d'entendre vraiment ton opinion sur le sujet que je vais te soumettre, c'est-à-dire le renouvellement ou la prolongation du contrat de l'association du Finlandais Kimi Räikkönen avec Ferrari. T'as donné le ton avant la pause, mais je vais laisser les auditeurs deviner comment tu reçois cette nouvelle-là parce que je te demandais si c'est une surprise ou pas vraiment que Räikkönen revienne avec Ferrari.
C'est pas une surprise parce que Sébastien Vettel aime avoir Kimi Räikkönen comme coéquipier. D'abord, ils s'entendent bien. Puis deuxièmement, Kimi Räikkönen commence de plus en plus à ressembler à un porteur de valise, là. Comme c'était le cas dans le temps de Michael Schumacher, où ses coéquipiers étaient littéralement des larbins, là. On pense à Eddie Irvine, on pense à Felipe Massa, à Barrichello, surtout ça a été pas mal la quintessence là, du frotteux. Là. Alors, c'est
donc,
ça.
Donc, tu accueilles ça avec une certaine déception? Comme
ben, oui, parce que je pense qu'un volant chez Ferrari, c'est un des deux meilleurs volants disponibles en Formule 1. Puis ça devrait, dans le baquet d'une Ferrari, ça devrait être deux des meilleurs pilotes de la Formule 1. Räikkönen, qui a longtemps été un de mes pilotes préférés, hein, fait que trompe-toi pas, là. Moi, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais le Räikkönen d'aujourd'hui n'est plus l'ombre de ce qu'il a été auparavant. Puis pour Vettel, c'est parfait parce qu'il n'est pas de menace pour lui, puis c'est ça qu'il veut. Puis chez Ferrari, ben on veut pas avoir à gérer de politique. Parce que c'est difficile pour les dirigeants d'écurie de gérer.
Oh, les gars, d'égo, t'es prêt avec les deux pilotes pendant une année complète, peut-être deux. Puis s'il faut que tu aies toujours à démêler les fils dans chaque histoire,
ben
là,
oui,
ça devient épuisant pour tout le monde.
Ça a été compliqué pour Mercedes pendant 3 ans, hein, avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg, mais ils ont été champions 3 ans. Moi, je trouve ça plate que ça soit pas un gars comme Fernando Alonso, qui est encore très, très bon, qui ne retrouve pas un volant chez Ferrari. Je le sais que ça s'est mal fini entre lui et Ferrari.
Ils n'ont pas pardonné.
Mais, ben, je pense pas, parce que c'était surtout entre Alonso et Di Montezemolo que le torchon brûlait. Puis Montezemolo n'est plus là. Mais bon, peut-être que M. Marchionne n'a pas pardonné non plus. Mais en même temps, ça ne s'était pas très bien terminé entre Ferrari et Kimi Räikkönen non plus à l'époque, il y a 10 ans. Et pourtant, ça n'a pas empêché Räikkönen de revenir, tu sais. Alors, je trouve ça plate qu'un gars comme Alonso gaspille son talent avec une écurie, avec une voiture qui est vraiment médiocre, même s'il y a eu un peu d'amélioration ces derniers temps, là. Puis je trouve ça plate de voir qu'un gars comme Räikkönen, qui ne mérite pas, à mon avis, un volant chez Ferrari, parce que c'est correct ce qu'il fait, là, tu sais. Il monte sur le podium une fois de temps en temps. Il est toujours dans le top 5. C'est pas catastrophique, loin de là, mais c'est un ramasseux de points. C'est ça que c'est devenu, là. Et on est loin du Räikkönen, là, qui était peut-être le pilote de F1 qui avait le plus de panache à l'époque.
Oui, il y en a eu dans ces grosses années-là.
Oui, mais c'est plus ça.
Là, tout le monde s'apprête à reprendre le collier, là, après une pause de quelques semaines.
Oui, j'ai hâte de voir. Bon, c'est sûr qu'on s'intéresse à Lance Stroll, hein, alors j'ai hâte de voir si le déclin de Williams va s'arrêter, parce que cette écurie-là est vraiment en péril. Là,
et tu me permets permets-moi une petite parenthèse, parce que bon, quand il y a eu un bon résultat, où est-ce que c'est à Montréal que Lance a eu son meilleur résultat de l'année?
Ses premiers points, mais son meilleur résultat, c'est la course suivante à Bakou, où il est monté sur le podium.
Oui, c'est vrai. Donc, deux courses consécutives. Puis là, je te dis qu'on a payé la traite à notre ami Jacques Villeneuve. Hein. C'est ce dont j'ai pris connaissance à distance. C'est-à-dire que quand ça va bien, t'en profites pour te revenger sur ceux qui sont peut-être trop critiques à tes yeux. Mais reste que sur l'histoire de la saison complète, on est revenu pas mal à la normale. Hein.
Ben, en fait, je dirais même pas que c'est normal, parce que Williams, c'est supposé être une équipe meilleure que ça. Là, ils sont même plus là, dans le top 5. Tu sais, Williams, d'habitude, là, Mario, là, c'était comme les quatrièmes ou cinquièmes, tu sais, ce qu'on appelle les meilleurs des autres. On s'entend que Ferrari, Mercedes, Red Bull, ça, c'est dans une catégorie à part. Mais Williams était toujours, comme je te dis, dans le top 5. Quatrième, cinquième. Il y a Force India qui a commencé à la menacer ces dernières années, qui l'a même devancé. Donc, ça jouait pas mal entre les deux. Mais là, écoute, cette année, ils sont vraiment largués, là. Plus la saison avance, pire ils sont. Et là, ils sont devancés par Force India, par Toro Rosso, là, c'est pas normal. Renault qui commence à leur souffler dans le cou, qui était une écurie qui était vraiment en sérieuse
difficulté. Donc, c'est pas juste une question de pilotage, là. C'est une question de bolide également qui
est entre
les mains.
Clairement.
Les comparaisons, là, évidemment, il n'y a pas eu de course depuis quelques semaines, mais les comparaisons entre les deux pilotes de Williams font-elles mal paraître encore, Lance, ou ça c'est... Non. L'écart entre les deux, c'est résorbé?
L'écart, c'est résorbé. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que chez Williams, on a vraiment raté la voiture cette année. Et surtout, pendant la saison, la voiture, au lieu de progresser, elle régresse.
Donc, il n'y avait pas tort de se plaindre, parce que là, il passait pour un plaignant parce qu'il n'y avait pas des bons résultats. Mais il reste que il a identifié des problèmes sur cette voiture-là. Ben, je ne sais pas.
Il ne se plaignait pas tant que ça, non, pas premièrement. Tant que ça non pour plus, un là. Pilote de Formule 1, ils sont tous plaignards.
Je n'ai pas choisi le bon mot.
Il n'était pas si
Donc, il a mis en lumière les difficultés avec la voiture, pour le public, c'est ça.
Tout à fait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez Williams. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est clair, à l'interne. Parce qu'en plus, leur directeur sportif, ce n'est pas n'importe qui, c'est Paddy Lowe. Ça, c'est un petit peu comme si tu avais...
Ross Brown, non?
C'est un petit peu comme si tu avais John Babcock comme coach, puis ton équipe gagne pas. Mike Babcock, ouais, tu vois comment, moi, le hockey, c'est pas mon affaire, là, mais j'essayais de faire un parallèle entre les deux. Là.
Ouais.
Alors, oui, il y a quelque chose qui marche pas.
Il y a eu John Paddock, peut-être. Ouais. Peut-être ça que tu avais dans la tête. Paddock,
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais tu sais, je sais que Babcock, c'est le coach de la Ligue nationale. Ben, Paddy Lowe, ça a été quand même le directeur de l'écurie Mercedes, le directeur technique de Mercedes au cours des trois dernières années, pendant toutes les années où ils ont été champions. Ce gars-là, il arrive chez Williams. Je veux dire, ça devrait faire évoluer. Ça aurait dû tirer Williams vers le haut. C'est pas ça qui se passe.
Non.
Peut-être que si on avait une paire de pilotes un petit peu plus performantes, peut-être que ça aiderait aussi. Tu sais, Massa, on dira ce qu'on voudra, mais c'est un gars qui est pas mal à la fin de sa carrière, qui est pas mal au bout du rouleau. On mettra pas de gants blancs, là. Puis si ça avait pas été de la présence de Lance Stroll, il serait pas revenu. Williams l'avait mis dehors. Williams avait dit, bon, ben merci, Felipe, c'est fini. Puis Felipe Massa avait pris une retraite forcée. Mais là, comme ils ont mis Stroll sous contrat, puis ils ont été obligés, ils ont prêté Valtteri Bottas à Mercedes. Tu sais, tout ça, c'est un jeu de domino. C'est la retraite de Nico Rosberg qui a tout changé la donne. Là, Mercedes avait besoin d'un pilote avec un peu d'expérience. Williams a dit, parfait, vous le voulez, Bottas, on va le laisser aller, mais vous nous fournissez le moteur gratis pour la saison. Oh boy! Fait que ça, là, on est dans les plusieurs millions, hein, j'ai pas besoin de te le dire. Mais là, ça prenait quelqu'un, ça prenait un pilote pour épauler, pour jouer le rôle de mentor avec Lance Stroll. Sauf que, bon, ben, Felipe Massa, justement, c'est pas Fernando Alonso.
Mais il y a mentor puis il y a performance. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne personne en dehors de la piste qui apporte pas une aide considérable. Permets-moi un dernier sujet avant de te laisser filer, Philippe. C'est que, de façon plus globale, Liberty Media, les nouveaux gestionnaires, les nouveaux propriétaires de la Formule 1, songe à peut-être rediviser le calendrier, puis je sais pas si on s'inspire des succès de courses comme Montréal et Monaco. On veut se rapprocher des villes plus festives parce que bon, c'est ça qui marche.
Il y a deux nouvelles dans ce que tu dis. Premièrement, on veut diviser le calendrier, genre une portion Asie, une portion Europe, etc. Bon, ça, c'est de la grosse, grosse logique, là.
Diminution des coûts.
Coûts, etc., etc. Parfait, 100%, on peut pas être contre ça.
Ben
c'est
non,
c'est
ben
même
non.
Une très bonne idée. Et on veut aussi, tu viens de le dire, faire plus de courses dans des environnements urbains. Ça, moi, l'amateur de course automobile, j'aime moins ça. Ça fait des maudites belles images à la caméra, ça, j'en conviens. Mais les circuits urbains, c'est souvent des circuits un peu Mickey Mouse, des circuits sur lesquels il est absolument impossible de dépasser. Moi, s'il vous plaît, faites-moi pas d'autres Monaco. Monaco, je veux bien pour la tradition,
ouais.
Là, mais sinon, je veux surtout pas ça.
Mais tu sais, Montréal, c'est un bon compromis de ça, c'est-à-dire que c'est pas en ville comme telle, mais t'as la ville en arrière, t'es à un taxi de te ramasser au milieu des festivités. Fait que,
Montréal,
je sais pas s'il y a d'autres agglomérations, je sais pas s'il y a d'autres centres urbains qui peuvent amener là, les mêmes aspects. C'est peut-être ça qu'on va regarder. Peut-être un petit peu comme Melbourne en Australie également.
Melbourne, Mexico.
Moi,
si vous me faites un compromis comme ça, OK, c'est correct, j'achète. Mais si vous me faites un circuit dans les rues de ville, oublie ça. Tu sais, le circuit de la formule électrique, là, oublie ça, les Formule 1 n'auraient jamais pu courir là-dedans. Là. C'est un circuit de karting.
Tu sais, quand ça négociait fort, quand Normand Legault était toujours dirigeant de la Formule 1, alors qu'il était à Montréal, alors qu'il s'apprêtait à quitter, tu sais qu'il avait évoqué diverses autres possibilités de courses. Ici, on a un beau circuit, pas question d'aller ailleurs. Il y a déjà la Formule 1 qui emprunte un autre circuit qui ne fait pas l'unanimité. Mais
ben,
il avait évoqué le 10-30, hein, notamment, mais je pense pas qu'il va avoir de la Formule 1. Je sais pas si c'était un outil de négo, mais il avait dit ça en ondes, tu sais, comme en voulant dire... Non, mais tout est possible. Hein?
Ben,
ça prend de l'asphalte, puis
je pars à rire, puis à rigueur, pourquoi pas? Tu sais, c'est un quartier qui est en pleine effervescence. Puis
le mouvement va partir de Montréal, la Formule 1, ça arrive sud.
Ça arrive sud, dans le 450, mais tu sais, c'est surtout qu'en arrière-plan, tu vois le centre-ville. C'est toujours à ça qu'il faut que tu penses, aux images pour la TV.
Postale.
Moi, si vous me faites un circuit qui est intéressant, où on est capable de dépasser un circuit genre Austin... Mm-hmm. Au Texas.
Oui, oui.
Moi, si vous me faites ça au 10-30, j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez le faire où vous voulez.
Je disais ça de même. Je pense pas qu'il y ait question de déménager la course du circuit Gilles Villeneuve, mais ça avait été évoqué à l'époque parce que, tu sais, les rénovations qui étaient sollicitées par Bernie et compagnie, tu sais. Fait qu'il y avait brandi quelques hypothèses à haute voix.
Comme dirait Guillaume Lepage, on jase.
C'est ça.
Voilà.
Pas plus compliqué que ça. C'est-tu le fun à part de ça? Philippe, un gros merci de ta présence et en quelques secondes, là, le retour à la maison, je sais que tu vas retourner à 730 circulation. Ça s'est calmé un petit peu, là, les plus
fortes, ça s'est calmé beaucoup, mais il y a encore une veille d'orage violent là, qui a été émise par Environnement Canada.
Ah, c'est toujours présent.
Oui. Donc, okay. Si vous n'avez pas à prendre la route ce soir, là, forcez pas à note, là, parce que ça a été des orages très violents aujourd'hui.
Oh, oui, ça... Ouais. ça...
Les arbres déracinés, là, tu sais, quand même, c'est pas rien. Là.
C'est pas banal. Merci. Il me semble que les veilles d'orage violent, il y en a de plus en plus. Je sais pas si c'est une idée que je me fais. Merci, Philippe. Et une excellente soirée. Dans quelques instants, nous accueillons Dave Lévesque, un des meilleurs golfeurs au pays, qui va venir nous parler de Rory McIlroy, qui, après avoir laissé planer quelques doutes quant à sa participation aux événements de fin de saison, dit oui, je vais les jouer. D'ailleurs, il est au Yankee Stadium ce soir, puis il frappe des balles dans l'arrière du marbre, dans les gradins. Puis ils visent des cibles, c'est pas une promotion, mais en tout cas, ça fait des drôles d'images. Rory McIlroy qui frappe des balles de golf dans le Yankee Stadium. Et on va aller retrouver tout à l'heure Alex Agostino, qui lui est à Fenway Park. Mais golf au retour de la pause.